Fondation Charlet au Paul Meilhard qui nous loge. Pour les détails techniques et pratiques, mais toujours utiles, le café est là-bas, les toilettes sont là. Voilà. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir James Galbraith, professeur à l'Université du Texas, président d'Economics for Peace and Security, auteur de La Grande Crise, dont je vous recommande la lecture, mais aussi de L'État prédateur, qui était un livre excellent. James travaille aussi sur les inégalités, parce que, bizarrement, il n'y a pas que Thomas Piketty qui travaille sur les inégalités. Et puis, surtout, il est vice-président de l'Institut Veblen. Et il vient régulièrement en France, il nous fait l'amitié de venir parler ici, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas forcément qu'on soit amis, mais plutôt qu'il soit ami avec Yanis Varoufakis, ce qui l'a amené à voir un petit peu de l'intérieur le fonctionnement, ou pas trop, je ne sais pas, de la crise grecque et de la crise européenne. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, qu'il est là, pour nous dire ce qu'il a pu voir et comprendre de l'intérieur, et qu'on puisse en tirer ensemble un peu les conclusions, notamment sur les possibilités de réforme de la zone euro. Donc on a fait quelque chose d'informel. Moi, en premier, je voulais qu'on organise une grosse conférence. Et James m'a dit, non, on va te faire un petit truc, comme ça, on pourra échanger vraiment. Voilà, donc on va pouvoir échanger vraiment, on l'espère. Donc James va faire un petit speech de 30 minutes, c'est ce qu'on s'était dit. 20, 40, comme il voudra.
20. 15.
Et puis... vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. L'idée, c'est de faire un échange. Alors, James parle français. Je ne sais pas en quelle langue tu vas parler aujourd'hui, mais enfin, je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais ou pas, mais on peut switcher dans l'une des deux langues, changer, pardon.
Poruski, konnichiwa.
Ah non, ça non. dans l'une des deux langues. Et je voudrais remercier aussi les étudiants de l'ENSAE qui sont là et avec qui on organise aujourd'hui cette conférence, et qui sont notamment emmenés par notre ancienne stagiaire, Adeline Guéret, qui se cachait un petit peu. Voilà, donc on est très contents d'avoir des étudiants de l'ENSAE avec nous aujourd'hui. Et James, à toi.
Merci Aurore, et c'est toujours pour moi un grand plaisir d'être ici. Puisqu'on est parmi, on est entre amis, je ne sens pas la nécessité de vous donner un long discours. Pour commencer, je veux dire que j'étais hier aux journées d'économie à Lyon. Et au début de notre session, le modérateur a annoncé qu'il y avait une collaboration entre, je ne sais pas, GECO, la session même. Je n'ai pas écouté parfaitement, mais c'était avec Paris Match. Alors... J'ai commencé mon intervention en disant que dans ma capacité d'ancien conseiller envers le ministre des Finances de la République hellénique, malgré le respect profond que j'avais envers cette revue si excellente, j'interdisais catégoriquement qu'ils viennent à ma maison. Aurore m'a demandé de parler un peu de ce qu'on a appris. Je vais passer directement aux essentiels. Et puis on va revenir sur les détails si ça vous intéresse, ou on va passer dans n'importe quelle direction que ça vous plairait de faire. Quelle est la situation actuelle en Grèce? Après... le référendum, après la capitulation, après l'entrée en force du troisième mémorandum. Je crois qu'il y a deux mots qui caractérisent cette situation d'une façon assez précise. C'est la colonisation et la liquidation. Point de vue politique, vous avez au sein de l'Europe un pays qui n'est plus indépendant. Plus du tout. Il est formellement interdit depuis le sommet du 12 juillet au gouvernement grec d'introduire les projets de loi dans son parlement sans l'accord préalable des créanciers. Et même pas de circuler ces projets au public pour les commentaires. C'est dans le langage du sommet qu'ils ont fait ça. Le Parlement grec est en train de mettre en œuvre les projets prioritaires du mémorandum. Je crois qu'il y en a environ 48 projets de loi qui ont été dictés à Bruxelles et traduits en grec. Il reste au gouvernement pour la question de que faire après. Mais c'est un gouvernement qui a perdu toute marge de manœuvre sur des questions économiques. Donc la situation locale, la situation actuelle du pays ne vaut rien, ne pèse rien contre les décisions et les idées fixes des créanciers. Et où est-ce que ça va mener? Où est-ce que cela mène en ce moment? La politique économique consiste en fait dans une partie macroéconomique et une partie microéconomique. Le parti macroéconomique, ça vise sur la question des excédents primaires, les objectifs pour les excédents primaires, qui ont été remis à 2,5%. Pour une période indéfinie, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'échec par rapport aux objectifs, parce que l'objectif n'est pas soutenable. Pourquoi ? Parce que la politique économique qui vise cet objectif, c'est une politique récessionnaire qui va diminuer les activités économiques, surtout dans les secteurs formels et dans les ressources fiscaux de l'État grec. Il va y avoir pendant un certain moment, que ça peut marcher pendant certains mois parce qu'ils ont fait un taux très lourd des impôts, surtout de la TVA, mais après un certain moment, ça ne marchera plus. L'activité va diminuer, les gens ne vont pas payer, ils vont évader les taxes. Quoi d'autre? Il y a une réduction des retraits avec une combinaison de mesures, mais dans les cas que je connais personnellement, il y a des pensionnaires, des anciens fonctionnaires du gouvernement dans des capacités assez responsables, une directrice par exemple de l'archéologie marine, qui a perdu déjà 2 mois de son retraite par an. Une réduction carrément. Hein. En tout, environ 15% déjà. Et c'était une pension qui avait été déjà réduite par 45% depuis 2010. Alors, 1 000 euros par mois pour les plus hauts fonctionnaires. La retraite moyenne en Grèce, c'était de 665 euros par mois. Niveau de pauvreté, 664. Et il y avait des centaines de mille qui portaient 350 euros par mois. Pas grand-chose. Et on coupe. Quoi d'autre? La privatisation. Ils sont obligés de construire un fonds de 50 milliards d'euros sur 20 ans, je crois, pour privatiser les bons d'État. Ils n'ont pas à ce que je sache, 50 milliards d'euros de bons. Cet objectif ne sera pas atteint. Mais de toute façon, tout ce qui est valable va être vendu à des prix très réduits, des prix minables, parce que c'est ça la nature des ventes en détresse. Les réformes structurelles, de quoi il s'agit? Ils ont une industrie pharmaceutique en Grèce qui va être rendue vulnérable à la concurrence des entreprises plurinationales parce que, non pas parce que celles-là ont un avantage dans la compétitivité, mais parce qu'elles ont des avantages en manipulant les paradis fiscaux et la situation des impôts dans les différents pays. Alors, les réformes visent à avantager les entreprises étrangères par rapport aux entreprises nationales. Ils peuvent faire un prix de transfert entre les opérations en Bulgarie ou ailleurs que les entreprises grecques ne peuvent pas faire. Il y a toutes sortes de choses, des petites choses, même les laitiers qui ont été obligés d'éteindre la date de fraîcheur de lait de 3 à 7 jours pour que les entreprises hollandaises puissent importer le lait dans des magasins qui sont souvent pas la réfrigération pour tenir ça au frais pendant 7 jours. C'est ça le genre de réforme. Ce ne sont pas des réformes construites par les experts pour améliorer les conditions de l'économie grecque. Ce sont des réformes qui ont été construites par des lobbies et qui ont vendu ça aux autorités européennes. Alors, les deux choses, la colonisation, c'est-à-dire la perte d'indépendance de politique en Grèce qui est quasiment totale, et la liquidation de la population civile et de l'État grec, de ce qui leur appartient. Les réformes juridiques, à quoi ça vise? À faciliter les évictions. À faciliter les liquidations après les banqueroutes. Il y a toute une liste de mesures de ce genre. Alors, à quoi est-ce que cela va mener au moyen terme? La situation politique en Grèce a eu des tourments très, très curieux et très étranges, mais le résultat, c'est que le gouvernement de janvier s'est rétabli dans une situation politique qui est pour l'instant assez stable. C'est-à-dire qu'Alexis Tsipras reste au pouvoir pendant peut-être tout un mandat, 4 ans peut-être, avec sa coalition qui manque seulement le plateforme de gauche, qui était la seule source de dissidence interne dans Syriza. Il a pu choisir tous ses candidats pour le Parlement actuel, et le parti des Grecs indépendants, en coalition, c'est un partenaire qui ne demande rien. Alors, le gouvernement est là, il va rester là. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir achever les résultats demandés par les créanciers? Ça, difficile à dire, mais assez douteuse. Pourquoi ? Deux raisons. Je crois d'abord qu'il y a, ils sont obligés de se soumettre à des revues en permanence. Tous les 3 mois, il y a une revue. C'est un gouvernement qui ne va jamais échapper de cette surveillance très étroite du Troïka. Et le soutien monétaire envers les banques et envers les dettes dépend d'une réussite continuelle dans cette question de revue. Alors, les créanciers peuvent choisir à chaque moment s'ils acceptent ou n'acceptent pas que la performance du gouvernement grec soit suffisante pour continuer cette relation entre les deux. À chaque moment, ils peuvent, s'ils veulent, couper les liens et obliger le gouvernement grec de sortir de l'euro, s'ils veulent. Ça, c'est une décision qui va être faite probablement par M. Schäuble, qui n'est pas forcément contre une sortie de la Grèce de l'euro. Et en Grèce même, je crois qu'on peut accepter et attendre que le Parlement grec va faire ce qu'on lui demande de faire. Mais le Parlement, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'administration. Est-ce que les magistrats vont faire ce qu'on leur demande de faire? Est-ce que la police va faire ce qu'on la demande à faire? Ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a des raisons pour douter. Pour le peuple grec, c'est très clair que c'est un contrat illégitime qui impose des conditions qui n'a pas été accepté ni par le peuple grec et ni véritablement par le gouvernement, sauf sous coercion, par l'intimidation. Et un contrat qui est signé dans ces conditions, n'est pas nécessairement valable. Certainement, ce n'est pas moralement valable. Donc, ça m'éternerait beaucoup. Je ne suis pas allé depuis le début juillet. J'ai parti. Je suis parti de la Grèce en 7 juillet, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça continue longtemps sans une résistance passive assez importante. On verra. Et il y a aussi la possibilité, évidemment, éventuelle, d'une résistance plus active. Des manifestations, là. Qui mènerait peut-être à la violence politique, soit de l'extrême droite, soit des anarchistes ou de la gauche. Et ça va poser des problèmes assez intéressants et importants pour ce gouvernement qui est arrivé des manifestants, qui n'est pas un gouvernement des oligarques, qui n'est pas un gouvernement de la répression, qui n'est pas confortable avec la violence officielle. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Syntagma Square a été pendant 2-3 ans un champ de bataille civil jusqu'en janvier. Entre janvier et juillet, c'est une scène de la manifestation de la solidarité du peuple avec le gouvernement. C'était une chose remarquable à voir. J'ai fait un rapport à un certain moment au Trésor américain que j'ai eu le privilège de témoigner pour la première fois dans l'histoire du monde une manifestation populaire en faveur d'un ministre de Finances. Même pas en France. Mais dès que ce gouvernement se trouve dans les dans la situation de Samaras et la situation de Papademos. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être intéressant. Passons d'une façon, pour quelques instants, aux conséquences pour l'Europe. Vous en savez autant de moi, là. Mais je crois qu'on peut dire que c'est très clair que le modèle Syriza ne marche pas pour les petits pays d'Europe. Ce modèle, c'était un modèle européeniste, un modèle de réforme, de changement de la politique européenne, suivant les lignes de la proposition modeste. Mais pratiquement, depuis le début du gouvernement, une question de changer certaines provisions du mémorandum qui ne fonctionnait pas, qui était contre-productif de façon économique, et dont les économistes et les autres spécialistes grecs savaient beaucoup plus que les créanciers pourquoi ça ne marchait pas. Il n'y avait aucun intérêt pendant les 5 mois du gouvernement de discuter ça d'une façon ouverte et en bonne foi. Ça n'est pas arrivé. Il n'y avait vraiment pas de négociations. Pour les créanciers, c'était une revue du contrat existant. Qu'est-ce que vous avez fait pour compléter le programme? Pour les Grecs, ils voulaient discuter qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la condition de la Grèce et pour faire un retour à la croissance de l'économie grecque, mais ça ne les intéressait pas. Et d'ailleurs, je crois qu'ils n'étaient pas qualifiés de le discuter d'une façon compétente. Alors, sur la scène européenne, est-ce qu'on peut parler encore de la proposition modeste avec ses 4 thèmes, de la mutualisation des dettes, réforme du système bancaire, les programmes des investissements et programmes de solidarité?
Deux secondes, pour information, c'est le programme qui avait été développé par Yanis Varoufakis, Stuart Holland et Jeff Galbraith.
Tout le monde ici sait cela.
Évidemment, mais je rappelle. Mais
là, ils ont déjà eu l'occasion de regarder.
Mais au cas où, quand même. Voilà, c'était la proposition
modeste. C'est très modeste.
Qui avait écrit Yanis.
Préface de Michel Rocard.
Voilà, et Stuart Holland et James. Des années avant qu'Yanis soit ministre, ouais. Et même avant qu'il ait l'idée d'être ministre, à mon avis.
Mais voilà. Où est-ce qu'on on va discuter ça en Europe en ce moment, et avec qui? Il n'y a pas de forum. On peut en parler, mais c'est une discussion dans le vide pour ce moment. Alors, je crois qu'il reste deux choses, c'est-à-dire pour les petits pays, la prochaine fois qu'il y a une insurrection contre la dictature de l'austérité et ses conséquences destructrices, le gouvernement qui arrive, je ne sais pas où ça va se passer, peut-être en Irlande, peut-être en Espagne. L'Espagne, ce n'est pas un petit pays. Mais le gouvernement va arriver à Bruxelles avec ses demandes de révision du contrat dans une poche et avec le plan B dans l'autre. Ouvertement. Il va falloir choisir. Pour nous, le plan B, c'était une question extrêmement délicate. On ne pouvait pas en discuter publiquement sans risquer la déstabilisation d'abord du ministre des Finances, du gouvernement et des négociations entre la Grèce et l'Europe. surtout dans cette atmosphère médiatique de confrontation et de méprise, de mépris. Mais le plan B, le fait que ça existait, c'est connu maintenant. La façon de faire sortir, faire une sortie de l'euro, on peut le discuter publiquement. Et pour finir, du point de vue technique, je crois qu'on va arriver à la conclusion que ce n'est pas tellement difficile. Je crois que du point de vue interne, dans nos discussions internes envers la Grèce, entre nous, on a pas mal exagéré les difficultés. Et il faut dire aussi que la Grèce était dans une situation extrêmement fragile, surtout vers le mois de juin, parce qu'il n'y avait pas de réserve. Ouais. Alors, on ne pouvait pas dire au gouvernement qu'on aurait pu limiter la dévaluation d'une nouvelle monnaie à 30 ou 40%. Sans avoir un certain sens de où ça irait dans les premières semaines, on ne pouvait pas dire que le gouvernement aurait pu survivre la transition. Question difficile pour un gouvernement. Mais la prochaine fois, ces questions, on va les discuter ouvertement. Et quelqu'un, les gens qui sont là, qui auront la responsabilité, les discuteront d'une façon plus ouverte. Et pour les grands pays, ils auront à discuter la question, mais ils auront peut-être une deuxième possibilité, ce sera de faire ce qu'ils veulent faire sans avoir préalablement l'accord de leurs créanciers du gouvernement allemand, ou français d'ailleurs, si on parle de l'Italie. Parce qu'ils sont dans une situation un peu différente. Il y a des pays qui peuvent agir, qui pèsent suffisamment dans l'Union pour qu'ils puissent prendre des risques et des positions qui ne sont pas ouvertes aux petits pays. Mais ça dépendrait de la situation actuelle à l'époque. Ce que je peux, en conclusion, dire, c'est que j'étais au début de cette évolution politique, de ce moment dans l'histoire de l'Europe, j'étais personnellement très attaché au projet européen, comme tous les gens de ma génération, je crois. Beaucoup moins maintenant. Parce que si vous avez un système qui n'admet pas une discussion ouverte et honnête sur les conditions dans les pays et qui est catégoriquement opposé à l'existence d'un gouvernement de gauche, ce qui était le cas, catégoriquement favorable à la déstabilisation de ce gouvernement. Alors, difficile d'accepter ça dans le contexte d'une union coopérative et constructive, sinon progressiste. Alors, ça suffit. Tu m'as demandé 30 minutes, je vous ai donné 28 et 50 secondes. Ça va.
À l'américaine, quoi.
Ouais.
Merci, bien. Avant de prendre des...